Il est 8h17, Nikos Aliagas, en direct du studio Bellemare, aujourd'hui pour notre 100e matinale.
L'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, avec vous Bernard Tapie, bonjour.
Bonjour. Bonjour Bernard Tapie.
Bonjour madame.
Cet après-midi, le président sera en banlieue parisienne pour un nouveau débat, beaucoup disent un nouveau show. Vous l'avez trouvé comment jusque-là, il vous a bluffé ?
C'est-à-dire, on l'a vu déjà pendant la campagne électorale, hein. Je pense que c'est un exercice qu'il connaît bien, qu'il sait faire. Et aujourd'hui, il est dans la prolongation de ça.
Il y a du Bernard Tapie en lui ?
Oh non, je ne me vanterai pas de ça, mais le fait est qu'il sait faire. Hein. La campagne, il l'a gagnée comme ça, en gros. Et dans la situation dans laquelle il était, il a décidé, pour reprendre un terme sportif, de mouiller le maillot, quoi. Et donc, c'est bon, voilà, après, ça débouchera sur quoi, on verra bien. Je crains quand même qu'en ce moment, les esprits se durcissent, les positions se raffermissent, il n'y a pas de passerelle. Enfin, c'est insupportable ce qu'on vit en ce moment, franchement.
Vous qui avez été ministre de la ville il y a 25 ans, quel regard portez-vous sur les banlieues ? Êtes-vous aussi inquiet que Gérard Collomb qui parlait de quartier en sécession avec la République ?
Mais ça lui va bien, il est maire d'une grande ville, il a fait comme tous les maires, c'est-à-dire il a gardé son pognon pour les quartiers qui votent. Et ils ont arrêté d'investir de l'argent dans les quartiers qui ne votent pas. Et comme les trois quarts maintenant sont devenus que des quartiers occupés par des gens qui ne sont pas de nationalité française d'origine, les immeubles se cassent la gueule, il n'y a plus... Voilà. Donc il y a une séparation totale des populations et qui ne...
Vous inquiète ?
Ça m'inquiète. Et comment ça m'inquiète, évidemment. On a des taux de chômage de 35-40% dans ces coins-là. Donc c'est évidemment très inquiétant. À l'époque où j'étais ministre de la Ville, j'avais fait un truc qui s'appelait les maisons des citoyens. C'était un endroit où ils pouvaient se rencontrer, ceux qui sont dans les quartiers et ceux qui n'y sont pas. Et c'était vraiment un truc formidable, j'aimais bien.
Le journal du dimanche annonçait hier que le président serait sur le point d'organiser un référendum le même jour que les européennes. Est-ce la solution habile pour sortir de la crise des Gilets jaunes ?
Habile ? C'est une solution gonflée. Vous rendez compte que s'il le fait, ça veut dire qu'il accepte l'idée soit de gagner les deux, donc il est en tête aux européennes et il a un gros succès sur le référendum, et s'il perd les deux, vous imaginez dans la situation dans laquelle on se trouve.
Donc, et s'il perd les deux, qu'est-ce qui se passe après ?
Il se passe que ça devient ingérable à très court terme. Donc, moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais encore une
vous
fois...
Vous auriez fait quoi ?
Non, j'aurais probablement d'abord assuré les élections européennes, d'abord, parce que c'est capital, non pas ni pour lui, ni pour moi, mais pour la France et pour l'Europe. Il faut gagner ces élections. L'Europe, elle est... il n'y a que les Français qui ne se rendent pas compte, c'est inimaginable. Vous vous rendez compte que la France, c'est 5% du monde. Qu'est-ce qu'on va la ramener si on est tout seul ? Donc, on doit consolider l'Europe, faire en sorte qu'elle soit plus généreuse, plus solidaire, un peu plus attractive. Ça, oui, mais penser à l'idée que « oh, y en a marre de cette Europe, on se barre et on regarde l'Angleterre », vous croyez qu'ils sont beaucoup mieux ?
Bernard Tapie, Ingrid Levavasseur a évoqué le soutien moral que vous apportez à la liste, sa liste des Gilets jaunes. Vous lui avez passé un coup de fil pour lui offrir quelques conseils ?
Jamais. Quand je lui ai donné des conseils, c'est parce qu'elle a estimé, elle et ses amis, qu'elle devait m'en demander. Il faut pas imposer quoi que ce soit. C'est des gens qui sont la traduction réelle de ceux qui ne votent plus. Ça veut dire 50% en gros sur les élections européennes, par exemple, de la population. Et ils les incarnent totalement. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Sur les ronds-points, il y a à peu près 50 à 60% de femmes. En politique, il y a moitié-moitié parce qu'ils sont obligés, pas parce que ça leur plaît bien aux hommes. S'ils pouvaient s'en passer, je peux vous garantir qu'on viendrait à 7 sur 10. Donc là, ce mouvement authentique, spontané, il donne une traduction de la société telle qu'elle doit être.
Quel est votre soutien ? Quelle est la nature de votre soutien ? C'est un soutien moral, politique, financier ?
Je ne peux pas faire un soutien politique parce que je ne sais pas la ligne politique qu'ils vont choisir. Mais c'est par contre un soutien total pour qu'ils aillent au bout, au moins pour ne pas décevoir ceux qui se disent « Tiens, c'est nouveau ». Vous avez vu quand on l'engueule, quand on lui dit « Tiens, il y a un tel qui a dit ça », elle dit « Bon, c'est son droit ». Elle ne rentre pas dans le conflit comme...
Alors le conflit, Bernard Tapie, le Rassemblement national considère que cette liste des Gilets jaunes est une manœuvre. Jean-Luc Mélenchon parle même de grosse manœuvre. Est-ce que le but est de faire baisser les voix du Rassemblement national et de la France insoumise ?
La grosse manœuvre, c'est les gens de la France insoumise et du Front national qui ont infiltré les Gilets jaunes. C'est ça la grosse manip. C'est pas le contraire.
Mais en faisant baisser les voix, le score du Rassemblement national, la liste Gilets jaunes pourrait permettre à Emmanuel Macron d'arriver en tête devant Marine Le Pen. C'est pas votre vieux combat contre les Le Pen ?
Mais non, d'abord parce que je dois vous dire que le combat contre Jean-Marie Le Pen n'avait rien à voir avec le désaccord que je peux avoir avec Marine Le Pen. Ça n'avait rien à voir. Il y avait une crapule qui contestait la Shoah. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Elle a des options qui sont des options que j'aime pas, que je partage pas, mais qui ne m'entraînent pas dans l'envie de faire un combat. Voilà, c'est un parti républicain qui défend ses idées, qui les défend à haute voix. Pas avant. Avant, c'était pas ça. Donc, moi, j'ai pas ça. Ensuite, ils vont pas prendre de voix au parti existant. Ils vont prendre des voix chez les abstentionnistes.
Et on voit aussi le Rassemblement national baisser dans les intentions de vote, dans les sondages. Ça pourrait vous satisfaire ou pas ?
Non, mais ça signifie quoi ? Qu'il y en a pas mal. Soyez pas pressés, on a le temps. Elle n'a pas posé la question qu'il faut répondre. Là.
Allez-y,
on a le
j'enlève
temps.
Ma main.
Moi, je suis venu, je
j'enlève
vous ai consacré une plombe, restez tranquille.
Allez-y.
Donc, l'histoire, c'est simple, c'est que il y a peut-être pas mal de gens qui allaient au Front National par... envie de dire, il y en a marre, par exemple, vous voyez ? Eh bien, tiens, je vais aller pour faire chier les autres, je vais aller au front. Si une liste qui leur plaît plus les attire, c'est peut-être un truc qui n'est pas mauvais. Vous voyez ?
Est-ce que vous êtes en contact avec Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il vous arrive de discuter avec lui, notamment des élections ?
Non, mais je connais beaucoup de gens autour, comme je connais beaucoup de gens autour de Sarko, comme je connais beaucoup de gens autour. Vous savez, je suis pas...
Vous avez parlé de cette liste avec eux ?
La liste avec qui ?
Ou des élections, de cette liste Gilets jaunes ? Non. Alors, que répondez-vous à ceux qui insinuent
je m'en fous.
Que vous aimeriez... Que... Je t'en prie, laissez-moi finir ma question.
Mais je m'en fous d'avance.
qui insinue que vous aidez... Alors, que répondez-vous à ceux qui insinuent que vous aideriez Emmanuel Macron face à Marine Le Pen et que lui vous aiderait face au juge dans le procès qui vous attend début mars ?
Oui, oui, bah sûrement.
À eux, que leur répondez-vous ?
Rien. Ça m'intéresse pas. Franchement. Je sais différent. Que vous, ça vous intéresse, comme vous êtes issu d'une chaîne âgée continue, c'est sympa de remuer la merde comme ça et d'essayer de trouver des trucs, mais ça ne m'intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous, moi non.
Non, non, c'est
si,
ce qu'insinuent certains politiques qui sont dans ce combat des Européennes.
Mais je m'en fous, ce n'est pas le mien.
Bon, ce procès qui vous attend début mars, Bernard Tapie, vous pourriez le vivre comme une épreuve supplémentaire dans votre vie. Pourtant, vous dites que c'est ce qui vous maintient en vie. Qu'en attendez-vous ? Une réhabilitation qu'en attendez-vous ?
Je vais vous dire, mais pour une réhabilitation, parce que pour être réhabilité, il faut avoir été marqué et traumatisé. Simplement, ça va pouvoir montrer aux gens, car ça va être public, l'étendue des conneries que vous avez pu raconter, vous les journalistes, sur ce dossier, étant manipulé par 2-3 médias, genre Mediapart, Canard Enchaîné, etc., où vous avez fait sans arrêt le procès avant le procès. Mais moi, je vais vous poser une question avant. On a éliminé un arbitrage parce qu'il y avait fraude il y a 3 ans. Fraude il y a 3 ans. Et le procès pour savoir s'il y a eu fraude commence au mois de mars. Il n'y a rien qui vous gêne là ? Oui, sans être spécialiste du droit. Hein ? Normalement, il y a un procès, on examine s'il y a fraude, et s'il y a fraude, on en tire les conséquences civiles. On annule donc un acte civil. Là non, on a déjà annulé l'arbitrage, et maintenant on va savoir s'il y a fraude. Sympa non ? Beau pays hein ?
4 semaines de procès en perspective, ça ne vous paraît pas insurmontable aujourd'hui ?
Oh, j'ai eu beaucoup de mal à penser que je vais réussir à rester 4 semaines. Mmh. Mais ça ne fait rien, j'y serai de temps en temps.
Vous dites que vous n'avez pas peur de la mort, Bernard Tapie. C'est la mort qui devrait avoir peur de Bernard Tapie ?
Non, mais j'en ai, pour vous dire vrai, de moins en moins peur. Alors, ça tient à plusieurs choses. La première, c'est que quand tu as 75 ou 76 ans maintenant... Il faut se mettre à l'idée que la mort, c'est une définition du départ qui clôture la vie. Ce qui est emmerdant, c'est si vous êtes sur le point de partir en vous disant « j'ai des regrets, j'ai des remords, j'ai pas fait ça, j'aurais dû » ou « je laisse derrière moi ». Vous avez vu le stade Vélodrome quand on a su que j'étais malade ? 50 000 mômes, parce qu'ils n'étaient pas là à l'époque de la Coupe d'Europe, c'est leurs enfants. C'est bien, non, d'arriver à avoir donné du bonheur à des gens qu'ils transmettent à leurs enfants. Donc vous vous dites, bon, je ne suis pas né pour rien. Ensuite, j'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petit-enfant, je suis arrière-grand-père. Voilà, mes copains sont les mêmes depuis tout le temps. Ce qui est important, ce n'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie.
Merci Bernard Tapie.
Bernard Tapie, vous avez mis votre ton dans cet entretien passionnant avec Audrey Crespo-Mara.
J'ai le droit d'ailleurs.
Elle l'a cherché.
Non, vous avez dit.
Ils sont terribles. Hein. Ils cherchent.
Et ils trouvent.
Tant qu'ils ne l'ont pas eu, ils cherchent.
Et voilà. Ça réveille.
En même temps, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans des histoires depuis toutes ces années. Chaque décennie, il y a une histoire Tapie. Comment on survit à tout ça, Bernard Tapie ? Même la maladie, on a l'impression que vous êtes devenu plus philosophe ou plus stoïque. Vous dites tout à l'heure, on a le temps. Est-ce qu'on a le temps quand on sait qu'on est malade et qu'on doit se battre ? Où est-ce que vous avez épuisé votre force, justement ? Vous avez parlé de votre famille et de vos amis, mais si on devait aller plus loin ?
Ah non, mais là, il faut que chacun comprenne que le cancer, c'est vos cellules. Ce n'est pas un microbe, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un truc qui vient de l'extérieur. C'est une, puis deux, puis cinq, puis cent, puis mille cellules qui sont à vous qui essaient de becquer vos autres cellules qui sont saines. Donc, le secret, il faut bien comprendre que si vous donnez à vos cellules saines de l'énergie, vous, évidemment, augmentez vos chances de guérison face à ces salopes qui, elles, sont malades et veulent vous faire crever.
Donc, il y a du mental, il y a beaucoup de mental.
Ah non, c'est pas mental, c'est vraiment physiologique. Le mental, vous savez, le cancer, il en a rien à foutre, hein. Ce qui compte, c'est quelle est l'énergie qu'il rencontre dans la bataille qu'il a contre les cellules saines. Ça veut dire pour ça que la seule manière d'avoir de l'énergie, c'est de bouger. Tu vois, normalement, ma femme ce matin, elle m'a dit « t'es malade, t'as 39, tu dois rester couché ». Eh ben non, je suis venu voir Nikos.
Ouais, mais j'y suis sensible. Et en même temps, c'est une façon aussi de vous accrocher à des choses. Dans l'arène, je me bats, c'est ce que vous dites ?
Oui, mais même d'une manière générale. Moi, j'étais en chimio. Et je continuais de faire 100 km de vélo par semaine. Les mecs ne comprenaient pas parce que c'est normalement pas possible. Mais voilà, il faut se surpasser parce que l'énergie, c'est directement la conséquence des efforts que tu fais, physiquement. Mentalement, le cancer, il s'en a vraiment. Alors là, il s'en tamponne. Hein.
C'est ce que disent parfois les médecins, les psychologues, c'est qu'il faut garder le moral, y croire, oui. Ouais, tout ça. Ouais. Ça ne suffit pas.
Non.